Moi, je suis amoureux de Paname.
J'aime plus Paris. On court partout, ça m'ennuie.
Ça balance pas mal à Paris. Ça balance pas mal.
Paris, 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 que je te quitte.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
Paris, je t'aime, moi non plus.
Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Raphaël Spagnoli.
Sous le ciel de Paris marchent les amoureux.
Il est le plus suisse des chanteurs, auteurs, compositeurs parisiens. Ou le plus parisien des chanteurs, auteurs, compositeurs suisses, c'est selon. Son piano virevolte et ses textes font mouche. Un artiste qui allie sensibilité et fantaisie. Il a les yeux vraiment très très bleus, avec des étoiles dedans. Oui, c'est une référence au livre qu'il a écrit, Des étoiles dans les yeux. Un livre, un disque, un spectacle, la totale. Il n'a pas vraiment chanté Paris, mais il y vit. Et surtout, à chaque concert, il a à cœur de reprendre Barbara.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois, c'est le dernier.
Comme elle, seul avec son piano, il se demande quand reviendras-tu et se languit de déambuler dans les rues de Paris.
Dis, quand reviendras-tu ? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Le lieu de notre entretien, c'est lui qui l'a choisi. Celui qui a chanté le pingouin et son exil, la sirène, le squale, l'étoile de mer, la méduse. Celui qui a des pensées poulpes et qui regarde la mer a choisi l'aquarium de Paris au Trocadéro. Et jolie coïncidence de la vie, il existe une place suisse devant l'aquarium. Alors quoi de mieux pour les deux franco-suisses que nous sommes que de commencer l'émission par manger une raclette face à la tour Eiffel.
Je vis en arrière, je marche à l'envers de tout. Que pourrais-je y faire si je n'ai pas la manière pour vous? Pour un peu de bon sens, je n'ai pas eu ma chance. Je vis sous une mer de sirènes.
Nicolas Fraissinet, bonjour.
Bonjour.
Alors voilà, oui, on est vraiment dans le cliché. Hein. Je pense que.
Je crois qu'on pouvait pas faire mieux, en effet.
C'est toi qui as choisi l'aquarium.
Oui.
Et c'est en préparant l'émission, en venant un petit peu prospecter, que je me suis rendu compte qu'il existait justement ces petits chalets. Je ne sais pas si on peut vraiment dire typiques.
Bah, disons qu'il y a des petits drapeaux et des vaches qui rendent le concept assez typique quand même. Mais c'est vrai que bon, au niveau architectural, peut-être pas. Mais il y a l'esprit.
Il y a l'esprit et on vient quand même de manger une raclette.
Ouais. Donc non seulement j'aurai droit au poisson, et en plus j'ai eu droit à la raclette. C'est une très bonne journée.
Et puis bah, de l'autre côté, côté face, on a la tour Eiffel, cette grande dame qui nous domine entre trois nuages et deux rayons de soleil. Pour toi, ça c'est Paris ou pas ?
Alors si tu m'avais pas posé la question, je pense que j'aurais essayé de le caler à un moment, parce que oui, pour moi c'est vraiment Paris. Pour moi il y a aussi une espèce de symbole de résilience dans ce monument, parce que tout le monde le détestait quand il a été construit, puis finalement ça devient une espèce d'emblème. Et je me suis même dit, en arrivant ici au Trocadéro, qu'il me manquait une mini tour Eiffel à mettre chez moi.
Je pense qu'on peut en trouver dans le coin.
Oui, là je pense qu'on peut en trouver. Non mais oui, c'est un endroit que j'adore. En plus, c'est une référence aussi à la culture un peu steampunkisante que j'adore. Tout ce qui est art nouveau et toute l'époque que ça représente, moi c'est quelque chose dans lequel je me reconnais énormément. Donc c'est un monument que j'adore.
Qui est déjà monté ?
Oui, il y a très longtemps. Il faudrait que j'y retourne pour me rappeler un peu.
Je ne suis pas certaine que ce soit un truc que les Parisiens fassent vraiment.
Non. Moi, je l'ai fait une fois avant d'habiter ici, mais je pense que les moins touristes de Paris sont ceux qui y habitent. Quoi. J'ai un peu l'impression.
Et toi, ton histoire avec Paris, c'est quoi ?
Bah moi, ça a été une rencontre un peu cinématographique, parce que moi, je suis né en Suisse, j'ai vécu très longtemps en Suisse. Ensuite, je suis arrivé en Savoie, j'ai fait des études de lettres en Savoie. Et moi, j'étais décidé à faire du cinéma, et on m'a dit... T'es en France, si tu veux faire du cinéma, c'est Paris. Donc j'ai suivi un peu le courant qu'on me dessinait et je suis arrivé ici des étoiles plein les yeux en me disant je suis dans la ville du cinéma. Pour moi, c'était ça en fait. Donc j'ai découvert la ville comme un étudiant de l'image entre guillemets et puis du coup j'y suis resté parce que toutes mes attaches se sont créées ici et puis j'y ai fait ma vie de post-adolescent, pré-adulte, jeune adulte, vrai adulte et puis c'est pas du tout l'endroit où je pensais vivre. C'est peut-être pas du tout l'endroit où je vais rester, mais c'est un endroit qui est un vrai ancrage pour moi, même si je me sens fondamentalement beaucoup plus suisse.
Quand même.
C'est quand même, oui, oui, fondamentalement oui, mais j'ai l'impression d'être un éternel touriste amoureux de cette ville.
Et parce que le cinéma, c'était plutôt de l'autre côté finalement que t'as commencé.
Oui, moi mon rêve c'était de faire de la réalisation. Quand j'étais petit, je grimpais sur le piano de mes parents, je me racontais des histoires et je me disais le meilleur moyen de faire le lien entre les histoires et la musique, c'est le cinéma.
Ouais.
Donc je commençais à faire des petits films avec le caméscope de mon père. Et puis voilà, pour moi, ouais, l'idée c'était de raconter des histoires par l'image. Et puis j'ai découvert la scène presque par hasard, sur un malentendu. Et puis là, il y a eu une espèce de coup de foudre total. Et puis je me suis dit, tu veux faire du cinéma, très bien. Mais tu ne pourras pas vivre sans faire de la scène de toute façon. Donc soit tu fais les deux, soit tu fais de la scène. Mais de la scène est indispensable.
Alors tu es un artiste multitâche. Hein. Là, j'en ai parlé dans mon portrait. Un livre, un spectacle, un disque, tout qui se mélange. Il y a énormément de clips. Tu t'es lancé un sacré défi.
Oui, j'en suis pas venu à bout encore.
Il en reste.
Il en reste, il en reste.
Mais on sent, pour t'avoir vu sur scène, c'est comme un poisson dans l'eau.
Ouais, il y a une connexion à l'instant, en fait, sur scène, qui est pour moi assez salvatrice, soulageante et grisante. Enfin, moi, j'adore faire des films, raconter des histoires sous toutes les formes possibles. Mais il y a une temporalité en fait dans le cinéma qui n'est pas la même que sur scène, où quand on est sur scène on est nulle part ailleurs. La création se fait dans l'instant et le retour que les gens nous offrent est dans l'instant et dans l'instant on modifie ce qu'on leur propose grâce à leur retour. Donc il y a un partage qui est total et qui nous déconnecte un peu du hier, du ce matin, du demain, du après-demain. Il y a vraiment un ancrage dans l'instant qui pour moi correspond un peu à la définition du bonheur en fait.
Oh, rien que ça.
Ouais, pour moi le bonheur c'est une forme d'ancrage total dans le moment présent. Enfin, et il n'y a pas que ça, mais quand on est sur scène, on est vraiment absent au reste, quoi. On est incarné exactement dans ce qu'on est dans l'instant. Et ça c'est assez magique, c'est assez rare.
Et chaque soir en plus est différent. Chaque concert, même si j'imagine que la setlist reste la même.
Alors là, le nouveau spectacle, il y a 12 titres qui sont les 12 chapitres du livre. Donc là, il y a vraiment une structure assez cadrée. Même si on finit chaque fois le concert par des titres différents, parce que j'ai quand même besoin que ça parte un peu en sucette à la fin. Mais c'est la première fois que ça m'arrive en fait, d'avoir un spectacle très très écrit. Et moi, j'aime mélanger, garder une structure quand même, parce que le premier titre, ceux du milieu, la fin, il y a quand même une ossature qui est, en termes d'énergie et d'ambiance, qui est un peu choisie. Mais j'aime beaucoup changer, surprendre les gens et leur proposer de revenir pour qu'on change le spectacle ensemble, en fait. Et voilà, un de mes grands objectifs, mais ça sera plus tard, c'est d'arriver avec tout un répertoire qu'on tire au sort chaque soir.
Ah,
et de
ne
pas savoir ce que je vais jouer. Mais ça va me demander encore quelques années, je pense.
Cette reprise de Barbara, dit quand reviendras-tu, Barbara, elle a quelle place?
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti, tu m'as dit.
Elle a une place énorme. En fait, pour moi, ça a été un peu une découverte fracassante dans ma vie, où j'étais au collège, je crois, et puis notre prof de français nous a dit de faire une rédaction sur la chanson française. Et moi, je connaissais très peu, très mal. Je connaissais la chanson suisse, évidemment, mais pas la chanson française. Et je crois que c'est ma grand-mère qui m'a fait découvrir une vieille cassette et un lecteur de cassette. Elle était bleue, je me rappelle encore. Et il y avait Brassens, Brel, Barbara, Reggiani. Enfin, il y avait vraiment toute la collection imaginable de la richesse que représente la chanson française. Et je connaissais rien. Et j'ai tout pris en plein cœur d'un coup. Et donc, Barbara était là parmi tout ce monde-là. Et c'est là que j'ai découverte, en fait. C'est un beau cadeau qu'elle a fait à l'humanité d'écrire un pareil chef-d'œuvre parce que c'est un bonheur d'essayer de se glisser un petit peu dans son ombre.
Ça s'entend peut-être, on frissonne un petit peu, enfin un petit peu froid. Je pense qu'on va aller se réfugier du côté
chez
de l'aquarium, voir les poissons.
Donc vous allez faire la visite,
ouais.
Et donc toute cette visite c'est vous longer les parois d'un immense bassin qui fait 3 millions de litres d'eau. 3 millions de litres. On ne fait plus trop des bassins comme ça aujourd'hui, mmh. Mais à l'époque c'était vraiment quelque chose qui était très en vogue et surtout qui était une prouesse technique, vraiment, parce que nous on est sous terre, contrairement à la plupart des grands aquariums modernes. Donc c'est tout arabiscoté, c'est...
labyrinthe.
Voilà, c'est un véritable labyrinthe et on est justement dans un système d'escargots souterrains.
Alors je sais pas si on va aller se poser, il paraît qu'il faudrait qu'on aille voir les carpes qui ont apparemment très mal vécu le confinement.
Bon après je pense que c'est peut-être pas les seuls. Hein.
Oui voilà, justement toi le confinement, un confinement à Paris ou pas ?
Paris ouais, tout à fait. Mais moi ça a été un confinement assez créatif en fait, enfin, j'avais pas envie de m'asseoir sur une chaise et attendre que ça se passe, donc du coup j'en ai profité, j'ai presque pas vu le temps passer en fait, enfin, ça a été assez je me suis créé un peu des urgences qui ont fait que du coup je l'ai assez bien vécu.
Oui, quand la créativité est là et aide. Et là, bah, en créativité, moi je pense là forcément à ta chanson Étoile de mer.
Ah bah oui,
on en a de très belles devant nous.
Je te renvoie ces quelques mots par courant d'air ou courant d'eau. Je ne sais pas comment je devrais faire. Je te renvoie mes derniers mots. Je n'aurai pas le temps qu'il faut.
Mais on va pouvoir faire tout ton répertoire hein, si j'ai bien suivi Méduse.
Je pense qu'il y a des squales aussi, il y a des méduses.
Bon.
Oui.
Voilà. T'as bien choisi l'endroit.
Bah oui, mais c'est drôle, mais les aquariums, c'est les premiers endroits que je cible quand je vais visiter une ville que je connais pas.
D'accord.
C'est un peu un endroit de ressourcement pour moi, quand j'arrive à y aller dans un moment où il n'y a pas trop de fréquentation. Ça me calme en fait, ça me détend, j'ai l'impression d'être de retour à la maison en fait quand j'ai l'impression d'être sous l'eau avec eux.
Et puis en plus, en toute sincérité, quand on a choisi le lieu, tu m'as quand même avoué ne être pas trop bar parisien.
Non. Enfin, je suis pas du tout contre les bars parisiens, mais c'est pas un des endroits où... J'ai pas d'accroche, en fait. Je connais des gens qui me disent qu'ils ont des habitudes de bars parisiens, que pour eux, la vie d'une journée commence par le bar parisien. Ce qui m'est aussi arrivé beaucoup, qui m'arrive encore, mais les endroits qui m'accrochent vraiment et auxquels j'ai envie de revenir, c'est plutôt des endroits comme celui-là, quoi.
Il y a des artistes, justement, qui écrivent, qui composent dans les bars. C'est pas trop ton cas.
Ça m'est arrivé.
Ah.
Ouais, mais je suis plus un animal de la nature, en fait. Donc j'ai besoin de plus de silence et de vide. Pour moi, la ville a un côté très trépidant que je trouve passionnant, mais parfois fatigant. Et enfin, qui colle pas pour moi à la création ou à l'écriture.
Alors, on n'est pas en vacances scolaires, mais il y a quand même du monde.
Il y a quand même du monde. Hein.
Oh, et des petits poissons clowns. C'est sûr que ça change de la surface et de la faune parisienne. Ça reste quand même une des richesses de Paris, non ? Toutes ces possibilités culturelles, de lieux comme un aquarium, mais les musées, sont des choses qui te parlent.
Oui, alors c'est drôle parce que, comme on le disait tout à l'heure, j'ai l'impression que les moins bons touristes de Paris sont ceux qui y habitent. Et moi, en habitant à Paris, je pense très rarement... le matin à me dire tiens si t'allais voir une expo, si t'allais faire ceci, cela, ouais. Et c'est souvent quand je reviens de plusieurs jours de concert et que je reviens dans la ville que l'envie revient en fait aussi de me dire mais tu pourrais aussi profiter un peu de tout ce que t'as à disposition parce que c'est clair que c'est un endroit qui est rare en termes de champ des possibles parce qu'il y a quand même un paquet de choses à faire ouais.
J'ai mon petit questionnaire de Proust sauce parigote et je pense à une de mes questions qui est si toi, Nicolas, tu étais un musée parisien.
Ah, je pense que ça serait les arts et métiers.
Ah, les horloges, les...
Ouais. J'ai un truc avec le 19e et avec l'époque et tout l'imaginaire de Jules Verne et toute la mouvance steampunk aussi qui me parle énormément. Ça se voit un peu dans certains clips, pas dans tous, mais il y a un peu de... C'est un univers qui me passionne. Et c'est vrai que la première fois que je suis allé au musée des arts et métiers, je me suis assis dans une des grandes salles où il y a toutes leurs machines fantastiques
ouais.
Et je suis resté complètement scotché. J'ai dû rester une heure ébahi à me demander où j'étais. Et j'avais l'impression d'être sorti d'un musée dans une dimension parallèle. Je sais pas, il y a une atmosphère, puis cette salle avec l'immense pendule là, qui ouais, enfin voilà, il y a... Pour moi, ce musée-là, il a quelque chose de... qui me donne envie d'y retourner en plus. Il y a une grande salle avec ses avions qui sont tous pendus, perchés, là, les voitures en suspension. Enfin, il y a quelque chose de très enfantin aussi qui donne l'impression de revenir dans un monde où tout est possible. Et ça me plaît.
C'est marrant parce que je me demandais si tu allais dire le musée d'Orsay, puisqu'il est présent dans ton roman, on retrouve quand même l'horloge.
On retrouve l'horloge, ouais. La fameuse salle incroyable du musée d'Orsay. Mais alors c'est drôle parce que j'étais retourné au musée d'Orsay pour écrire cette scène, parce que je connaissais dans mon souvenir la pièce. Mais je m'étais dit quand même, tu vas
écrire là-dessus.
Tu vas travailler un peu, tu vas y aller pour être sûr que ce que tu écris n'est pas complètement faux. Et en fait, je pensais juste monter et puis prendre quelques photos. Et puis j'ai passé des heures à regarder toutes les sculptures parce que c'est aussi un des arts qui me fascine.
Moi, c'est ton livre qui m'a permis de savoir que le café s'appelait le café Campana.
Ah bah oui.
Pour moi, Campana, c'est Depardieu dans la chèvre.
Quelles sont les formalités pour faire partie du club ?
Lâchez-moi !
J'ai pas bien compris. Ouvrez, on entend mal.
Pour moi, ça ne suggère que le café du musée d'Orsay.
Mais j'avais l'horloge en tête quand même.
Il y a un petit côté aquatique aussi hein, dans ce café là. Avec la déco, il y a des univers qui se rejoignent un peu dans ce café.
Plus simple peut-être maintenant dans le questionnaire, si t'étais un quartier, un arrondissement.
Moi je serais le 11e.
Le 11e.
Moi j'ai vécu pendant très longtemps près de la place Voltaire, donc du coup ça serait ça. Ouais. J'ai même eu plusieurs adresses, j'ai vécu dans la rue Oberkamp d'abord, ouais. Ensuite Parmentier. C'est un quartier qui me va bien parce qu'il est à la fois hyper vivant, mais pas trop.
Pas trop, ni trop touristique. Ouais.
Ça, c'est bien. Mais il y a aussi énormément de richesses à y découvrir. Il est très multiculturel aussi. Moi, j'adore ce quartier. Mais ça va jusqu'à Saint-Maur, tout ça. Enfin,
ce
coin-là.
Jusqu'au Père-Lachaise.
Saint-Ambroise, Père-Lachaise-Bastille aussi. Enfin, la rue La Roquette aussi, tout ce coin-là. Si un jour je devais me réinstaller dans Paris, ça serait un des premiers endroits que j'irais visiter. Après, peut-être que je suis pas à l'abri d'un coup de cœur sur un autre quartier, mais celui-là, j'aime beaucoup, particulièrement.
Est-ce que... Donc, on a parlé de ton côté, l'attirance pour le cinéma, dont on arrivait à Paris. Est-ce que tu es cinéphile ?
Alors, ça dépend de ce qu'on appelle cinéphile. Oui, enfin forcément, moi ça, j'adore. Ah, alors là, je suis obligé de m'interrompre quand même parce que c'est quand même un endroit où j'ai eu la chance de faire un concert ici.
Dans l'eau ?
Non, devant. Devant. Il y avait une grande scène. Puis on avait
c'est génial. On va aller s'asseoir sur les marches, comme ça on sera face à la scène, un peu vide, mais pleine de mérous.
Et alors, il y a un moment qui avait été assez incroyable, c'est que au milieu d'une chanson, j'avais entendu tout le public faire « Oh !» des yeux grands ouverts sur moi, donc je pensais que c'était pour la chanson. Et en fait, c'est qu'il y avait quelqu'un derrière qui donnait à manger aux poissons. Et donc, il y avait tous les poissons faisaient des volutes dans l'eau. Et on avait l'impression qu'ils dansaient sur la musique, mais en fait, ils dansaient pour la bouffe. Pas du tout pour la musique.
Ouais, j'y avais vu, donc, comme dans tes chansons, une sirène.
Tu avais la peau d'une sirène, la sueur acide d'une fleur d'agrumes.
J'étais venue avec ma fille, j'ai eu les journées pour les enfants et il y avait une sirène qui faisait un spectacle, pour le coup, de l'autre côté de la vitre. Donc dans mon questionnaire de Proust, je te parlais du cinéma, je parlais de grand écran finalement. C'est un peu ce qui se passe là, on est un peu comme devant un grand écran. T'as une salle de prédilection dans Paris si tu vas au cinéma ?
Bah, ça dépend des périodes. Là, la période Covid n'a pas trop aidé la phase cinéma. Non, je ne suis pas trop abonné en particulier à un lieu ou à un autre. J'ai un souvenir énorme, c'est au cinéma qui est, je crois, Place d'Italie. Il y a un écran géant là-bas.
Oui.
Et je faisais des études de cinéma. Et j'ai une amie qui m'a dit, c'était en 2000, je crois, par là. Et elle me disait, on parlait de 2001, l'Odyssée de l'espace. Elle m'a dit, tu n'as pas vu 2001 ? Je lui ai dit, non. Fais-moi une promesse, on attend 2001. Parce qu'à tous les coups, il va y avoir une rétrospective et il va sans doute passer sur l'écran géant. Et c'est ce qui est arrivé. Et du coup, j'ai découvert 2001 en 2001 dans cette salle de cinéma avec un écran qui faisait peut-être 3 fois la taille de ce qu'on a devant nous.
Et du coup, Kubrick ?
Ah, magique.
Ah,
ah ouais, ouais. Bon, ce film, il a aussi un peu résonné comme un rendez-vous parce que je l'ai attendu, du coup. J'étais au courant que j'allais avoir une émotion et une découverte assez hallucinante avec ce film. Ça n'a pas loupé, ça a été le cas. Et Kubrick, pour moi, c'est un des maîtres, je pense qu'on peut l'appeler comme ça, parce que ça soit ça ou Shining, ou enfin voilà, j'en passe, quoi, mais c'est un cinéaste incroyable. Quoi.
Et alors, un cinéaste qui aurait, selon toi, le mieux filmé, ou une cinéaste, évidemment, qui aurait le mieux filmé Paris ?
Ah, pour moi, c'est Amélie Poulain. Ben moi, j'aime bien les choses un peu hors cadre, un peu hors case et non conventionnelles. Je pense qu'on peut utiliser ces adjectifs pour Genet et pour Amélie Poulain. Mais ouais, du coup, je me retrouve bien dans ces imageries-là. Et bon, c'est peut-être pas le film le plus conventionnel sur Paris, mais moi, c'est le premier qui me vient à l'esprit, c'est ça, ouais.
Dans l'idéal, un monument... Alors, on a parlé beaucoup de la Tour Eiffel, puisque quand même, on a mangé face à elle. Et sinon, un petit truc peut-être pas connu, où les touristes ne font pas... Et qui, toi, t'aurais marqué ?
Moi, j'ai une... On me l'a fait remarquer pour mon livre, d'ailleurs. J'ai une affection particulière pour les fontaines. Et les endroits qui me plaisent dans Paris, c'est souvent les places où il y a des fontaines. Mais je ne saurais pas l'expliquer. Est-ce que c'est la lumière que ça provoque ? Est-ce que c'est le bruit ?
L'eau.
J'ai l'impression que... Oui, l'eau. Mais j'ai des petits... Des tocs, on peut dire. Je me balade toujours avec une bouteille d'eau. J'ai toujours besoin d'avoir l'élément pas loin. Alors bon, c'est vrai que les quais, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Mais l'eau projetée, c'est quelque chose qui crée une atmosphère que j'ai du mal à définir, mais qui me poursuit jusque dans mes histoires que je raconte.
Oui, qu'on retrouve. Enfin, moi, j'ai aimé particulièrement dans le livre aussi les références. Enfin, il y a quand même un moment où Elliot, ton héros, se fait sauver, interpellé par David Bowie. Alors, je sais que ça fait partie de tes influences. Et moi, j'adore ta réponse de te faire passer pour Major Tom.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.
Tu parles souvent de tes influences, Muse, Tori Amos, Radiohead, Bowie, Ragtime, le jazz, la formation. Mais du coup, du côté des Français, la chanson française...
J'ai très peu d'influence française.
C'est ça, hein, c'est le sang écossais, parce que c'est ça
c'est
aussi
le sang écossais, ouais, peut-être.
Qui domine.
Alors oui, c'est sans doute. Puis même dans ce que j'écoute, moi j'adore tout ce qui est la musique celte, c'est quelque chose qui me parle énormément. Après, la chanson française, c'est... Enfin, francophone. C'est plus pour les textes, en fait, que du coup, c'est des chansons qui m'ont énormément impacté. Peut-être que dans les mélodies, je pourrais parler presque plutôt de Reggiani, en fait.
Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moi pour que je te dise je t'aime.
Bon, après, ça, c'est des codes, hein, mais on m'a souvent dit que dans la chanson française, il y avait le texte qui était très en avant, mais que c'était plus le texte que la mélodie. Et moi, quand parfois on me dit que je suis un chanteur à texte, je me reconnais pas complètement, parce que pour moi, il y a une influence musicale qui est tout aussi importante, en fait.
Je rigole par rapport à cette chanson qu'on a évoquée de Barbara, parce que personnellement, moi, ma préférée de toi, c'est Reviens. Donc on n'est pas dans Quand reviendras-tu, mais pas loin.
Oui, c'est vrai.
Reviens, j'étais petit quand tu as pris le dernier train. Si tu voyais comme j'ai grandi, je me sens bien. Si ton regard pouvait me prendre la main.
Mais on sent ça quand même, cette sensibilité, moi je trouve, qui colle parfaitement aux accords que tu plaques avec les mots.
En fait, c'est que j'écris souvent en jouant. Parfois on me demande est-ce que tu fais la musique et ensuite le texte, ou le texte et la musique. Et en fait, moi, comme je me rappelle des textes avec les notes, je les mémorise en les jouant plusieurs fois sur le piano. Pour moi, la création du texte, elle n'est pas dissociable de la musique. Il y a vraiment une création de la musique et puis des mots, en fait, et des couleurs des mots qui vont avec la mélodie, quoi.
Tu as un dimanche idéal à Paris, un dimanche sans travail. Qu'est-ce que tu fais ?
Bon, alors le problème de Paris, c'est que pour moi, c'est une des plus belles villes du monde, mais qui est un peu trop petite par rapport au nombre de gens qui y habitent. Ce qui fait que je pense qu'un dimanche à Paris, il y a beaucoup de choses que je ferais volontiers, mais qui ne seraient pas possibles de faire.
Souvent, on dit que quand on a une bonne idée à Paris, la moitié de la ville l'a eue.
Ah oui, c'est ça.
Ouais.
Non, je pense que j'irais peut-être faire un tour sur la Coulée Verte. Ça, c'est un endroit que j'aime beaucoup. C'est un endroit atypique. Moi, j'aime bien les endroits qui sont un peu hors cadre. Pour écouter un peu le silence, moi, j'adore le silence quand je le choisis. Et à Paris, c'est souvent difficile de le choisir. Là, on a l'impression d'être à la fois dans un jardin, on voit des immeubles, on est presque à niveau des fenêtres des troisième étage, donc on est un peu dans le ciel. Et puis, il y a des voitures en dessous, mais on les entend très peu ou moins. Et j'aime bien ce côté un peu déconnecté de la réalité.
J'avais une question que j'avais préparée, mais en fait j'ai eu ma réponse en te retrouvant devant l'aquarium, c'était « Est-ce que tu photographies Paris ?» Et en fait, je t'ai surpris, appareil photo à la main.
Alors, il faut dire ce que je photographiais quand même. Je photographiais un tronc d'arbre. Donc, je pense que je suis peut-être le seul.
J'ai la photo parce que j'ai pris une photo de toi prenant la photo de l'arbre.
Le seul mec avec un appareil photo à Paris qui photographie un tronc d'arbre. Ça décrit mon manque de nature quand même que je vis ici.
Et quand même aussi pour le petit cliché clin d'œil suisse, nous avions rendez-vous à 12h28.
Voilà.
Et nous sommes retrouvés tous les deux un quart d'heure à l'avance.
C'est ça. Mais parce que je voulais photographier cet arbre.
Voilà, c'était prévu. Des clichés justement de Suisse à Paris.
Bon, plus en France qu'à Paris, parce que je suis arrivé en Savoie avant d'arriver à Paris. Bah, c'est l'accent, évidemment. Tout le monde me parlait de mon accent, puis j'avais l'accent vaudois en plus. Donc du coup, c'était facile de m'en parler, parce qu'il suffisait de m'écouter.
Petit accent vaudois.
Ah oui, j'avais bien. Et puis, si on parlait des yaourts, du fromage, on m'a beaucoup parlé de ça. Tout le monde me demandait quelle était la marque de ma montre. Parce qu'évidemment, c'est une des choses qui est connue à travers le monde venant de Suisse, c'est le savoir-faire de l'horloger. Donc.
Une habitude que les Parisiens auraient, qui ça, moi jamais.
Non, je vois pas. Sinon, si, à tremper sa tartine dans son café. Mais ça, je crois que c'est pas spécialement français. En fait, je crois qu'il y a plein de gens qui le font. Ben, voilà, ça, quand je vois ça, je me dis ça, moi jamais. Ça je ne ferai jamais. Mais ouais, c'est pas forcément en arrivant à Paris que j'ai vu ça.
Dans Paris, tu plutôt à pied, métro.
Alors, j'étais très vélo, mais je me les ai tous fait voler.
Ah mince.
Donc, du coup, j'ai fini à pied. Et puis, non, ouais, métro. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont attirés par la poésie du métro et par l'atmosphère qui est dedans. Moi, c'est. Je suis pas trop adepte de la foule et du monde. Donc. À pied beaucoup, ouais. Non, mais à pied c'est bien, surtout quand on se balade avec un appareil photo à la main, parce que du coup ça permet de trouver des troncs d'arbres et puis de photographier des choses. Moi j'ai pas beaucoup le temps de le faire, mais j'aime bien me perdre aussi. Et puis ouais, juste choisir un point A à un point B, mais pas exactement avoir défini la route qui allait me mener de l'un à l'autre. Ça c'est des petits cadeaux qu'on peut se faire quand on prend pas le métro justement.
Et quand tu as de la visite, des gens qui ne connaissent pas Paris, qui viennent te voir.
C'est un casse-tête.
C'est un casse-tête, ouais.
Ça m'est souvent arrivé d'amener des gens dans des aquariums. Sinon, je pense qu'un des premiers endroits que je leur propose, c'est d'aller à Beaubourg. Parce que si j'avais pas été le musée des arts et métiers, je pense que j'aurais été celui de Beaubourg. Parce que l'art contemporain, c'est quelque chose que j'adore. Et c'est un endroit que j'adore aussi, enfin ce qu'il y a dedans, mais le musée aussi.
Qui en plus allie avec une vue quand même assez exceptionnelle.
Voilà. Une fois qu'on a vu une expo, ou avant de la voir, on peut aller faire un petit tour sur ce qu'il y a au-dessus pour donner un petit peu le goût de ce qu'est cette ville. Et ouais, c'est souvent un endroit que j'ai proposé pour des séjours de 2-3 jours, une petite incartade là, une petite balade dans les vieilles rues du Marais, et puis ensuite le ciel de Beaubourg. Ouais.
Pour finir ce questionnaire, si dans le ciel de Paris s'envolait une chanson.
Ah, ça serait la chanson de Marc Lavoine et de Souad Massi. Je crois qu'elle s'appelle Paris.
Ouais, ouais, Paris, Paris.
Je marche dans tes rues qui me marchent sur les pieds. Je bois tes cafés.
Ah, cette chanson pour moi, elle est magique.
Je traîne dans tes métros, tes trottoirs, même un peu trop. Je rêve dans tes bistrots.
Pour moi, elle représente très très bien cette ville, en fait. Avec le mélange culturel qu'elle contient, avec ces deux voix qui parlent d'amour, mais d'un amour qu'on ne sait pas trop s'il est en train de durer ou s'il est fini. Parce que pour moi, dans Paris, il y a aussi une notion de hyper romantique de souvenirs, mais de déchirure aussi. Et cette chanson, elle le contient, je trouve aussi. Et ouais, ça serait ça. J'adore cette chanson.
Ouais, Paris, tu m'as renversé. Tu m'as laissé sur ton pavé.
Je dors dans tes hôtels, j'adore ta tour Eiffel. Au moins elle est fidèle. Quand je te quitte un peu loin, tu ressens le chagrin. Ça me fait un mal de chien. Paris, Paris, combien Paris, tout ce que tu veux. Boulevard des bouleversés. Paris, tu m'as renversé. Paris, tu m'as laissé.
On va se remettre face à un autre grand écran.
C'est vrai que ça a un côté très cinéma ici.
Et donc le bassin là, il est traversant, c'est ça?
Ouais.
Et je crois qu'on peut le voir de l'autre côté
oui,
aussi.
Oui, et puis là sur la gauche, il y a des petites alvéoles où tu peux rentrer ta tête pour avoir les poissons au-dessus de toi.
C'est vrai que malgré le monde, la nage des poissons donne un truc, un aspect calme.
Ah mais oui, mais c'est pour ça moi souvent que c'est des endroits que je cherche, parce que même si y a une colonie de vacances qui arrive et plein de hurlements, une fois qu'ils en vont, il y a le silence qui reprend possession des lieux et j'adore ça.
Et on n'est pas dans la même émulation qu'à la surface, avec qui n'est pas la même, je sais pas ce que tu en penses, justement autour de monuments tels que la Tour Eiffel, que les Champs-Élysées, des endroits très emblématiques, très cliché finalement de Paris, où il y a toujours du monde, et d'autres quartiers qui auront tout autant de fréquentation, mais pour d'autres raisons. Je pense notamment à la Défense, au quartier de la Défense. Est-ce que pour toi ça évoque Paris, ou bibliothèque?
Moi je pense que dans les monuments, il y a presque un côté un peu sacré. Je pense quand on va voir la Tour Eiffel, il y a pas n'importe qui, quand il sait qu'il va venir voir la Tour Eiffel, il y a une attente. On n'est pas juste dans le speed de la foule qui consomme du tourisme.
On redevient un peu enfant.
Ouais, il y a un émerveillement, il y a quelque chose qui relève du domaine de l'icône aussi un peu. Mais moi, ça me le fait encore. Là, quand je suis venu, j'ai pris le métro pour venir ici, et puis il y avait un métro aérien, et j'ai vu cette grande silhouette là qui s'est détachée dans le ciel. Et même si je la connais quand même bien depuis le temps que je suis là, à chaque fois, il y a un petit mouvement de recul, quoi. Il y a un petit bout d'émerveillement qui refait surface quand même.
J'aime bien cette vision qu'on peut en avoir quand on est sur un bateau mouche, justement, et qu'on est vraiment en dessous.
Ouais.
L'immensité de la ville, la densité dont tu as parlé, on peut créer des liens quand même. Tu te sens dans une ville ou une personne parmi tant d'autres?
Après, ça dépend qu'est-ce qu'on fait de la solitude, si on la choisit ou pas, quoi. Parce que il y a des solitudes qui sont des drames, et puis il y a des solitudes qu'on choisit et qui sont magnifiques. Et moi, je suis un grand solitaire, même si je suis très social et collectif, mais j'ai besoin d'avoir des bulles hyper cloisonnées, en fait, où j'ai besoin de m'enfermer ou de me mettre dans le silence de l'eau.
le vocabulaire que tu utilises, hein, des bulles, des cloisons,
on est quand même très... Moi, j'ai des phases, en fait. Pour moi, Paris, c'est comme une relation passionnelle. Il y a des phases où j'adore cette ville, d'autres où j'en peux plus et j'ai qu'une envie, c'est de déménager. Et je pense que à vie, j'aurais ces deux sentiments à l'égard de la ville. Et c'est aussi un sentiment ambivalent qu'on peut avoir avec la solitude.
On en a besoin et
on en
souffre.
Besoin et à la fois, parfois, on a envie d'autre chose. Mais bon, c'est vrai que quand parfois je me sens seul et que j'ai pas envie de l'être, je vais pas dans la rue pour me sentir moins seul. J'ai pas l'impression que ce soit la solution non plus. Mais moi, j'arrive pas à voir la solitude comme quelque chose de négatif. Je pense qu'il y a d'autres leviers que la ville pour ne pas la subir, quoi. Je pense qu'on peut être à plein, juste à trois ou à deux. Et là, on peut être très seul dans une multitude, quoi. Mais je ferai pas le joint, l'association obligatoire. J'ai beaucoup parlé. Je crois que je vais regarder les poissons.
J'aime bien t'écouter, hein, moi ça me va très bien. Et là, je rebondis aussi sur ce côté très ambivalent de Paris, on l'aime, on la déteste. Enfin, j'ai appelé mon podcast Paris, je t'aime, moi non plus.
Oui, ben c'est ça.
Il y avait le clin d'œil à Gainsbourg aussi qui a chanté Paris.
Le poinçonneur des Lilas.
Il y a une station de métro d'ailleurs, hein, maintenant, sur la ligne qui va s'appeler Serge Gainsbourg.
Ah, ouais, c'est
qui
bien, ça.
Peut-être juste pas sortie. Donc Barbara, maintenant, il y a une nouvelle station Barbara, au bout de la ligne 4. Depuis, je crois, début janvier. On peut constamment être dans une chanson à Paris.
Bah, quand même, la vie culturelle et artistique est très, très imprégnée de Paris. Et Paris en est très imprégnée aussi. Mais c'est ça aussi qui fait le charme foisonnant de la ville.
Et si tu étais une salle de concert, une salle de spectacle, parce que tu es plus des spectacles que des concerts, ce que tu fais, et surtout là, celui qui vient, j'imagine, que je n'ai évidemment pas vu, hein, je ne suis pas dans le secret des dieux.
On a beaucoup travaillé l'imaginaire visuel pour retrouver l'ambiance du livre, en fait. Donc, c'est pas exactement... Le livre parle d'un spectacle, donc il y a énormément de références du spectacle qui est raconté dans le vrai vivant, mais c'est pas non plus la reproduction exacte, parce que l'envie, c'est que le lecteur et ou spectateur et ou auditeur puissent piocher un peu partout et qu'ils se disent pas je suis obligé d'avoir lu le bouquin pour aller voir le spectacle ou inversement, mais il y a un univers papillonnesque, étoilé, enfin il y a des choses qui sont très importantes dans le roman et qu'on retrouve dans la scénographie du spectacle, quoi.
Parce que le livre en lui-même aussi n'est pas un peu comme toi finalement, on te met pas dans une case,
heureusement, mais oui c'est vrai que je suis un peu hors case.
Ouais. Je ne vais pas aller jusqu'à dire OVNI, mais voilà, dans d'autres cases. Ouais. Dans moi, j'ai découvert ce roman là il y a peu, avec en plus une coïncidence énorme où j'allais voir une pièce qui parlait d'un problème de vision quand j'ai commencé à le lire. Et ça a été d'ailleurs le marque-page de ah Beale, oui. C'était la vie invisible, le nom de la pièce que j'avais vue ce soir-là.
D'accord.
Ouais, ce côté hors case, justement, on ne rentre pas dans une case, on n'est pas classifiable, on n'est pas parisien, on n'est pas suisse finalement.
Non, c'est vrai. Je crois que c'est ma manière d'être. En fait, tous les choix de ma vie, c'est des choix que, consciemment ou pas, que j'ai fait pour être en dehors du courant. Pas forcément à contre, mais d'avoir une perspective différente pour raconter les choses à ma manière. Quoi. J'ai toujours eu besoin, je pense, d'être un peu différent.
Alors du coup, si je reviens sur Renaud, alors plutôt amoureux de Paname.
Moi, je suis amoureux de Paname.
Je dirais passionné par Paname.
Passionné.
Non, vraiment, moi, il y a une relation... Ouais, de passion. C'est ouais. Que c'est une ville. Si un jour j'en pars, j'aurais qu'une envie, c'est d'y revenir. Et pour la touristiser plus que jamais. Mais c'est une vague en fait. Enfin, c'est des vagues pour moi, cette ville.
C'est Platon, je crois qu'il disait que quand tu es amoureux, on est complètement aveuglé de ce qui se passe. Et quand on aime vraiment, on aime la personne, la chose, avec ses défauts.
Alors j'aime vraiment.
T'aimes vraiment, voilà. En fait, c'est ce que je voulais te faire dire, c'est que tu aimes vraiment Paris.
Ah oui.
Et on peut rejoindre du coup Hemingway. Paris est une fête ?
Non.
Non. Paris ne l'est plus peut-être aussi.
Un feu
d'artifice. Oh, ça va.
Non, parce que parfois il y a des choses à Paris que j'aime pas du tout. Donc pour moi, j'ai pas ce côté un peu carte postale du Paris parfait. J'arrive pas à m'empêcher de voir Paris autrement que sous tous ses aspects, les bons et les négatifs. Pour moi, c'est une des plus belles villes que j'ai vues au monde. J'ai pas vu toutes les villes du monde, mais j'ai quand même vadrouillé un petit peu. Mais je trouve qu'il y a aussi énormément de violence. Il y a aussi une ville qui est très difficile quand on n'a pas ses codes. Pour les gens qui n'y habitent pas ou qui la découvrent, il y a quelque chose qui est assez abrupt. Mmh. Mais ça n'empêche pas le foisonnement, le côté grisant de sa culture, le côté très festif. Mais il n'y a pas que. Il y a les deux, en fait. C'est une ville qu'il faut apprivoiser. Mais c'est aussi une ville qui est d'autant plus passionnante qu'elle ne se laisse pas conquérir comme ça. Je pense que c'est une ville qui se mérite et qui demande d'être un peu apprivoisée pour y être bien.
Et le fait aussi, j'imagine que tu retournes souvent en Suisse.
Oui.
Le fait justement de repartir, de revenir, de voir quand même des façons de vivre très très différentes. Là, on a des poissons qui nous passent au-dessus.
Dans un tunnel d'eau.
Un tunnel.
C'est un des endroits que je préfère ici.
Non, mais en fait, j'ai envie d'être dedans, moi.
Ah ouais, moi aussi. J'ai envie de remettre les bouteilles et hop.
Je vais essayer d'aller demander, je suis pas sûre que ça passe.
Non, je pense qu'ils vont pas accepter.
Alors oui, la Suisse, donc tu y reviens assez souvent. Tu fais des allers-retours. Imagine que tu peux te ressourcer dans un endroit et l'autre et trouver cet équilibre-là.
Je pense que ce qui sauve ma bonne entente aussi avec cette ville foisonnante, c'est que j'ai la chance de la quitter pour partir...
Pour mieux revenir.
Voilà, exactement. Ouais. Je pense que si j'avais un rythme plus conventionnel que tout le monde appelle le métro boulot dodo, je pense que j'aurais fait mes 10 ans et que je serais reparti. Ouais.
Oui, c'est vrai qu'en tant qu'artiste, on a une chance dingue. Enfin, ce que je considère en tout cas comme une chance dingue, c'est de ne pas avoir de routine.
Exactement, exactement. Et aussi d'être quand même un peu à contre-courant, parce que quand je disais que c'est une ville magnifique, mais qui souffre du rapport, qui n'est pas trop à son avantage entre sa taille et le nombre de gens qui y habitent.
Oui.
Ça veut dire que très vite, les métros sont pleins, les rues sont pleines, les parcs sont pleins. Et quand on a un métier dans le spectacle, on va faire son métier le week-end, puis la semaine, et ben on prépare le métier du week-end. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait, on vit un peu à l'envers par rapport à tout le monde. On vit la nuit, enfin on vit à contre-courant. Donc on n'est pas dans les zones, dans les périodes d'affluence en fait. Donc souvent moi quand je prends le métro, il n'y a personne dedans. Ce qui n'est pas une habitude pour tout le monde en général.
Alors nous voilà, on ressort de l'aquarium à la lumière du jour dans cet improbable village suisse.
Non, on était bien sous l'eau quand même.
Oui. Et justement ce dont on parlait tout à l'heure, le bruit, avec là quand même quelque chose qui n'est pas spécialement parisien.
Non, mais en fait c'est vrai, ça me fait souvent ça quand je sors d'un aquarium, c'est comme si j'ai l'impression de me réveiller, sortir d'un rêve en fait, et de revenir à une réalité un peu bruyante.
Ce côté très bizarre, en plus de gens qui nous dévisagent un petit peu, micro à la main, et la tour Eiffel. Bah, je pense qu'on va lui dire au revoir ici. Merci d'avoir veillé sur nous, merci Nicolas.
Ah bah, avec grand plaisir,
avec moi
merci
dans cette
à toi.
Balade helvético-aquatique, je sais
exactement.
Pas comment.
Helvético-océanique.
Plaisir de te réentendre très bientôt.
Avec grand plaisir.
Merci.